Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, l'Allemagne passe à l'armement lourd pour l'Ukraine. Berlin va envoyer des blindés, annonce faite alors que 40 pays sont réunis en Allemagne justement pour voir comment mieux armer l'Ukraine. Le risque de troisième guerre mondiale est réel, menace Moscou. En Transnistrie, zone séparatiste russe près de l'Ukraine en Moldavie, de mystérieuses explosions ces dernières heures. Le parti LR peut-il éviter l'éclatement entre centre et droite radicale, comité crucial et stratégique aujourd'hui? Le Twitter d'Elon Musk devra respecter les règles européennes, avertissement de la Commission de Bruxelles, alors que l'homme le plus riche du monde promet la liberté d'expression totale sur Twitter. Un Twitter censé être plus libre, bonne ou mauvaise nouvelle pour nos démocraties? On en parle avec Benoît Thiolin, entrepreneur spécialiste du numérique. Dans l'actualité encore, portrait de la doyenne de l'humanité, la Sœur André, qui vit à Toulon, 118 ans, un verre de vin le midi et de l'eau pétillante le soir. La belle affiche du soir en football, demi-finale de la Ligue des Champions, Manchester City, Real Madrid. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton, visite cette semaine de cuisine fantôme à Lyon. C'est Dark Kitchen où l'on prépare les burgers, sushis et autres sandwichs livrés à domicile.
Alors dans ce bâtiment-là, il y a 17 cuisines.
Donc chaque restaurateur loue sa cuisine.
C'est déjà quasi prêt à l'emploi. C'est des contrats d'un an sur un très faible investissement puisqu'on a un droit d'entrée qui est de 5000 euros.
Reportage Sarah Guibaudot, 13h30. En quoi vos relations sociales ont changé depuis le Covid et les confinements? Je vous attends au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. On en parle alors que l'INSEE publie une étude sur le sujet. Et dans C'est une chanson, le producteur de musique Céron nous parle de Bad de Michael Jackson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Qu'est-ce que les attaques terroristes des années 2010 ont changé à nos vies? Alors que depuis le mois de septembre se tient le procès des attentats du 13 novembre, à l'Olympia, ce soir, un groupe à jamais particulier est en concert, Eagles of Death Metal, ceux qui jouaient le soir du 13 novembre sur la scène du Bataclan. Ce n'est pas la première fois qu'ils rejouent en France. Qu'est-ce que les attentats ont changé ou pas à nos vies? Cette jeune femme, Sophie Parra, était au Bataclan. Elle sera à l'Olympia ce soir. Ajra Mohamed.
Depuis ce 13 novembre 2015, Sophie Parra n'est allée voir que 4 concerts, dont celui des Eagles of Death Metal. 4 mois plus tard, c'était déjà à l'Olympia.
Ça n'a jamais été serein. Ça a toujours été être proche des sorties de secours. Ça a toujours été sursauter au moindre bruit un peu bizarre. Voilà.
Avec les années qui ont passé, cette Lyonnaise pensait pouvoir revoir son groupe fétiche sur scène plus sereinement ce mardi soir. Mais le procès des attentats qu'elle suit de près a ravivé des souvenirs et surtout l'angoisse.
Il m'a surtout fait revivre la soirée du 13 novembre et puis sur le plan psychologique, on va dire que c'est un petit peu plus difficile, quoi. Je me demande si tout va bien se passer, si on va être protégé, si juste en fait je vais ressortir de l'Olympia sur mes deux jambes et pas en couverte de sang, quoi.
Malgré tout, Sophie compte bien surmonter sa peur. C'est un défi à relever, dit-elle. La meilleure des réponses aussi à ceux qui ont fait taire le Bataclan ce soir du 13 novembre.
Pour moi, c'est un vrai challenge d'y aller pour me prouver que je peux encore passer une bonne soirée, que je peux passer un bon concert et que eux, pendant ce temps, ils seront en train de pourrir dans leurs cellules, à peut-être réfléchir à ce qu'ils auront fait ou pas. Ça, à la rigueur, je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Et moi, je serai libre. C'est ça que je veux qu'ils sachent.
Libre et bien entourée, Sophie ira à l'Olympia ce soir avec une amie rencontrée après le 13 novembre, elle aussi rescapée du Bataclan.
Quant au procès du 13 novembre, il marque une pause cette semaine. Les moments importants des 7 premiers mois d'audience sont sur franceinter.fr. C'est un pays frontalier de l'Ukraine, tout près de la mer Noire. En Moldavie aussi, il y a une région séparatiste pro-russe, la Transnistrie. Plusieurs explosions y ont retenti ces dernières heures. Quelle est leur origine? Pas de réponse à ce stade. Mais alors qu'une extension du conflit en Ukraine est redoutée, alors que le ministre des Affaires étrangères à Moscou vient de brandir la menace d'une troisième guerre mondiale, la Moldavie réunissait ce matin son Conseil de sécurité nationale. Les mots de Sergueï Lavrov, le danger d'une troisième guerre est réel. Sont-ils une réponse aux dernières déclarations et initiatives des États-Unis? Les Ukrainiens peuvent gagner la guerre s'ils ont les bons équipements, dit le ministre américain de la Défense de retour de Kiev. Et les États-Unis rassemble les représentants d'une quarantaine de pays alliés pour renforcer les forces ukrainiennes. Ça se passe en Allemagne. En Allemagne, justement, le gouvernement sort de sa politique prudente. Nos voisins, David Philippot, vont livrer à l'Ukraine des blindés.
Il s'agit de blindés sur chenilles armés de missiles sol-air pour abattre les avions de l'ennemi et de deux canons destinés au combat au sol. Ces panzers de la guerre froide, plus en service depuis 10 ans, rouillés dans les hangars du constructeur, mais selon son porte-parole, une cinquantaine de guépards pourraient être mis en service et livrés dans un futur proche. Ils sont, selon les experts, difficiles d'utilisation, mais le symbole est là. Berlin rompt avec sa doctrine de prudence, la pression était devenue trop forte et les risques mis en avant par le chancelier Scholz, la Troisième Guerre mondiale, pesaient de moins en moins lourd face aux exactions et aux déluges de bombes sur l'Ukraine. Pressions extérieures et intérieures, puisque l'opposition voulait profiter des divisions au sein du gouvernement allemand pour déposer une motion de défiance jeudi au Bundestag. Les libéraux et les écologistes sont en effet favorables à ces livraisons d'armes lourdes. C'est un tournant, claironne le journal Bild. Mais comme pour la fermeture du pipeline Nord Stream 2 ou pour les sanctions, le gouvernement allemand donne l'impression d'agir une fois qu'il est dos au mur. Berlin, David Philippot pour France Inter.
L'annonce est donc faite alors que sur la base de Ramstein en Allemagne, pas loin de la frontière française, les représentants de 40 pays sont réunis, Union Européenne, Australie, Japon et même en Europe des pays habituellement neutres comme la Finlande et la Suède. Question clé, comment mieux et plus armer l'Ukraine ? C'est à l'initiative des États-Unis, premier soutien depuis le début de la guerre, près de 3,5 milliards d'assistance militaire, y compris de l'armement lourde. Ce sont eux les leaders, l'expert militaire et colonel Michel Goya.
Ce que l'on voit, c'est qu'en gros, il n'y a quand même plus de limites aux équipements que l'on fournit. Les seules limites, en réalité, c'était quand même souvent un peu ce que nous avons en stock. La France va fournir 12 canons César. Bon, c'est très bien, mais faut comprendre que la France en a 76 en tout. Et ce qui fait que, au bout du compte, ce sont les États-Unis, en réalité, qui comptent largement l'aide militaire américaine, les plus larges, plus importantes, que tout l'aide de tous les autres pays du monde réunis. Les Américains ont les moyens, donc c'est eux qui donnent le ton, comme souvent. Ben nous, on fait ce qu'on peut, on participe véritablement, mais au bout du compte, l'action, notamment l'action de la France, c'est pas décisif, quoi. Si on fournit l'équivalent de 100 millions d'euros d'équipement militaire, les États-Unis en sont à plus de 3 milliards et demi, pour situer à peu près les comparaisons. C'est en gros les Américains, et c'est ce qu'ils dépensaient pour l'armée afghane en un an à peu près, donc qui fournit l'armée ukrainienne en l'espace de quelques semaines.
Un propos recueilli par Valérie Krova, l'ONU estime désormais à 2 milliards 250 millions de dollars le montant de l'aide dont a besoin l'Ukraine. Lors du dernier appel de fonds, c'était un peu plus d'un milliard de dollars. Les besoins humanitaires et les villes martyrs comme Boutcha, dans la morgue de cette ville, les corps continuent à arriver. 400 retrouvés depuis que l'armée russe s'est retirée de la région fin mars. Et nos envoyés spéciaux en Ukraine, Farid Anouar et Fabien Gosset, ont rencontré cette grand-mère endeuillée.
Des rires, une famille réunie. Sur son portable, Avelina nous montre cette vidéo. Une fête, un gâteau, un adolescent sourit. C'est en janvier, c'est son anniversaire. Vania, son petit-fils, est mort. Il avait 15 ans.
Il fuyait en voiture avec sa mère et sa petite sœur. Puis les Russes leur ont tiré dessus. Ils sont sortis. Sa mère a tourné sa tête et elle a vu son fils s'effondrer dans un champ. Son corps est resté là pendant 4 jours. Les Russes avaient pris sa veste et ses baskets.
C'est un voisin qui récupère le corps et l'enterre dans le jardin. Il y reste 2 semaines avant d'être exhumé.
Il aimait se promener avec sa sœur. Il faisait du judo, de l'informatique. Un garçon fort avec des cheveux bouclés.
À la morgue de Boutcha, Vlina vient juste de récupérer le certificat de décès de Vania. Elle a préparé les affaires pour l'enterrement.
J'ai pris un pantalon, une chemise. Il faut que j'achète des chaussures aussi. Parce qu'on a dû couper celles qu'on lui a mises quand on l'a enterré dans le jardin. Elles étaient trop serrées pour ses pieds gonflés.
Sa petite sœur de 9 ans, qu'il adorait, exilée en Allemagne à cause de la guerre, ne sera pas là. Elle sait que son frère est mort, mais ne l'accepte pas.
Elle attend que Vania l'appelle.
Vania sera enterrée demain au cimetière de Boutcha.
À Moscou, le secrétaire général des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu rapide. Aujourd'hui encore, Vladimir Poutine doit s'entretenir au téléphone avec Recep Erdogan, le Turc qui a un rôle de médiateur depuis le début du conflit. L'actualité en Russie, c'est aussi cet homme qui a ouvert le feu ce matin dans une école maternelle de la région d'Oulianovsk. C'est dans le centre du pays. Il y a 2 enfants tués et 1 institutrice selon un porte-parole des autorités régionales et l'agence France-Presse. En Chine, après Shanghai, Pékin va-t-elle être à nouveau confinée? On n'y est pas, mais au pays de la politique zéro, il suffit, zéro Covid, il suffit d'une centaine de cas positifs en une semaine, 33 aujourd'hui, pour prendre des mesures de restriction très dures. Les expositions, cérémonies de mariage, spectacles et compétitions sportives sont suspendues à Pékin. Certains gymnases ferment également.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Comité stratégique chez les LR après la présidentielle et avant les législatives. Le numéro 1 du parti, Christian Jacob, est en train de s'exprimer. On y revient dans un instant avec notre envoyé spécial Anne Souhaitement. Quelles alliances ou pas avant les législatives? La question se pose aussi à gauche. Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, était l'invité de France Inter ce matin. Une union populaire derrière Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'il en dit.
Je soutiens cette perspective de coalition qui doit être une coalition très ouverte. Moi, je suis pour que, évidemment, il y ait la France insoumise. Le résultat du 10 avril les oblige de ce point de vue-là. Qu'il y ait aussi toutes les forces politiques de gauche.
Derrière Jean-Luc Mélenchon.
Ça peut pas, ça marchera pas. On peut pas se battre pour la 6e République et considérer que les élections législatives, c'est simplement un troisième tour d'élections présidentielles. Donc moi, ce que je dis, c'est que si on veut gagner ces élections législatives, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition. Parce qu'il va falloir ajouter les électorats les uns aux autres. Vous savez, si à un moment donné, cette coalition ne respecte pas l'identité de ses partenaires, si effectivement, à un moment, l'objectif, c'est celui que vous évoquez, ce sera sans moi.
Yannick Jadot avec Nicolas Demorand et Léa Salamé ce matin sur France Inter. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter. Faut-il rappeler que Jean-Luc Mélenchon a obtenu 22% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle, 4,5% pour Yannick Jadot. Question en ce début de semaine, un peu plus d'un mois et demi, des législatives. Jusqu'à quel point les écologistes sont prêts à mettre de côté des désaccords de fond au nom de l'Union?
Ah, ça va être difficile. On a entendu à l'instant l'avertissement de Yannick Jadot. Dans le programme Insoumis, il y a l'opt-out en français, l'Europe à la carte, le droit de désobéir quand l'Union européenne est moins disante que la France. Et ça, c'est un point de désaccord majeur avec les écolos. Et puis, ça coince en coulisses sur la distribution des investitures uniques. C'est assez technique, mais vous allez comprendre. Les Verts veulent au moins 30% des 150 circonscriptions les plus favorables. La proposition LFI est très en dessous. Enfin, EELV rejette la règle qui consisterait à ne se fier qu'au score du premier tour de la présidentielle, évidemment très avantageux pour Jean-Luc Mélenchon. Et les insoumis se verraient bien s'implanter à Grenoble ou à Bordeaux, des fiefs municipaux conquis par les écolos en 2020. Donc là aussi, ça grogne. Mais chez Mélenchon, on constate aussi des divisions dans la famille verte. À une écrasante majorité, les cadres EELV veulent négocier. Est-ce une vraie coalition qui se prépare ou la fusion-absorption dans l'Union populaire, cette structure qui a accompagné Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle? C'est toute la question. Fatigue plus vieille rancœur ne font pas ménage. Avec le PC, là aussi, les négociations sont au ralenti. Avec le PS, ça ne démarre que demain. Il faut faire vite, avant vendredi, pour envoyer les tracts chez l'imprimeur et pouvoir enfin commencer ce fameux troisième tour.
C'est en effet demain que responsables socialistes et insoumis doivent se rencontrer. L'actualité du matin se passe donc chez les LR, comité stratégique au siège du parti rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour Bruno.
On vous a laissé quelques minutes pour écouter le discours du numéro 1 Christian Jacob. Alors depuis dimanche en particulier, les tiraillements entre ceux qui sont attirés du côté de Macron et ceux qui sont attirés du côté de la droite radicale, ces tiraillements sont de plus en plus forts. Est-ce qu'on peut encore préserver l'unité? C'est le fil rouge de ce comité stratégique, Anne.
Oui Bruno, et pas d'implosion ce matin. 48 heures après la réélection d'Emmanuel Macron, LR tient, en tout cas en apparence. Le président du parti, Christian Jacob, vous l'avez dit, s'est exprimé il y a quelques minutes et il a redonné la ligne officielle du parti. Une droite indépendante, pas fongible dans le macronisme, impossible donc d'être à la fois candidat LR aux législatives et candidat pour la majorité présidentielle. La droite votera simplement les lois qui iront dans le bon sens. A priori, c'est clair, mais la question est en fait beaucoup plus compliquée. Quid des candidats LR qui n'auraient pas de candidats de la majorité en face lors des législatives? Faut-il les exclure du parti, leur retirer l'investiture? Pour le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui est candidat aux législatives et qui est arrivé ce matin et a participé à la réunion, ce doit être une ligne rouge.
La vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté ni de double appartenance. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être aux Républicains et accéder ou accepter les offres de service de la Macronie. Ce n'est pas possible. Enfin, je pense qu'on a besoin de clarté aujourd'hui dans ce pays.
Gilles Platret aux antipodes de Philippe Juvin, qui a lui aussi participé à cette réunion et qui plaide pour travailler avec Emmanuel Macron, veut être candidat et refuse lui toute idée de sanction.
On n'exclut personne, les Républicains, c'est pas un endroit, c'est pas une caserne où on exclut les gens.
Voilà, bref, encore une fois, la droite est déchirée, vous l'avez entendu, mais elle s'achète du temps. La question, Bruno, c'est jusqu'à quand? Est-ce que des élus LR vont franchir franchement le Rubicon, dont le patron des députés LR, Damien Abad, à la tête d'une circonscription compliquée, à qui beaucoup de questions ont été posées ce matin? Questions restées sans réponse très claire pour l'instant.
Anne Souhaitement, en direct du siège des LR à Paris, avec Lucien Lefebvre pour France Inter. À l'extrême droite, le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, continue de plaider pour un accord avec le RN, en particulier pour les législatives. Marion Maréchal dénonce les petites phrases, pas de débat de cours de récré, regardons l'essentiel. La phrase d'Éric Zemmour dimanche soir, soulignant que le nom de Le Pen est associé à 8 défaites à la présidentielle, a été très mal pris au RN. Et ceux qui se sont massivement abstenus à la présidentielle, vont-ils voter aux législatives ? 41% des 18-24 ans ne sont pas allés aux urnes avant-hier. Que feront-ils les 12 et 19 juin ? Petit coup de sonde dans les rues de Poitiers. Valentin Plat, France Bleu Poitou.
Parmi eux, il y a tout d'abord ceux pour qui ce scrutin est flou et peu médiatisé, comme Clémence, 19 ans.
Ça a l'air moins important, perso, moi je suis pas trop informée dessus. Du coup, je vais quand même voter, je vais essayer, mais c'est vrai que ça fait moins de bruit que les présidentielles.
Elle est d'ailleurs la seule dans son entourage à se rendre aux urnes en juin prochain, ce qui n'est pas le cas de Marjorie, 31 ans.
Je sais pas vraiment, après je m'intéresse assez peu à la politique, donc je me sens pas forcément toujours concernée.
Et puis il y a ceux qui ne se sentent pas représentés politiquement.
À titre personnel, moi je trouve que j'ai pas de candidat qui me convienne, donc c'est pour ça que j'aurais pas voté, quoi.
Pour autant, Vincent, Poitevin de 28 ans, ne rejette pas la faute sur les jeunes.
Parce qu'il y a des personnes qui sont plus forcément toutes jeunes, qui aussi ont ras-le-bol, ou se retrouvent pas dans les candidats.
Un argument que ne comprend pas Margot, 30 ans.
J'encourage tous les jeunes à aller voter, à profiter que les cartes aient été un peu rebattues à la présidentielle pour surfer sur cette vague-là.
Malgré ce taux d'abstention très élevé en 2017, les 18-34 ans restent une cible pour les forces politiques, car ils sont plus de 11 millions à pouvoir voter.
Et quel gouvernement première ministre avant les législatives? Parmi les noms évoqués par Matignon, celui de Pascal Canfin, eurodéputé En Marche, autrefois membre d'Europe Écologie Les Verts. Il écarte cette possibilité. La priorité, estime-t-il, est d'avoir une première ministre. Le nouvel archevêque de Paris s'appelle Laurent Ulrich, aujourd'hui archevêque de Lille. Il vient d'être nommé par le pape François. Bonjour Mathilde Deimy.
Bonjour Bruno.
Nous sommes dans un diocèse marqué des années 80 à 2000, les années Jean-Paul II, par le passage de Monseigneur Lustiger. Alors c'est un homme plutôt expérimenté et catho de gauche, pour le dire vite, qui succède à Monseigneur Aupetit, démissionnaire en décembre dernier.
Et ceux qui le côtoient dans le Nord parlent d'un homme simple et abordable sur son vélo, représentant du catholicisme social, intellectuel, féru d'art, y compris moderne. C'est un homme d'autorité, mais pas autoritaire, en résonance avec la société, dit de lui l'archevêque de Dijon, Monseigneur Héroir, qui était encore il y a 2 mois son bras droit à Lille. Il n'est pas d'usage de répondre aux interviews après nomination, mais Laurent Ulrich qui a publié ce midi une vidéo dans laquelle il se dit très surpris, impressionné, dit-il, par la taille et le symbole du diocèse de Paris.
Je n'ai pas vraiment de plan en arrivant chez vous. Je ne connais pas suffisamment bien ce diocèse, mais je suis prêt à vous connaître. Je suis aussi marqué, bien sûr, par les événements qui ont traversé ce diocèse de Paris. Je serai attentif à écouter les peines que vous avez vécues ces derniers mois, dernières années.
On sent la prudence, car Paris est un diocèse qu'il faut apaiser, pacifier, encore diviser, traumatiser, dit un ancien prêtre influent après le départ précipité de son prédécesseur. Et contrairement à ce dernier, Monseigneur Ulrich n'est pas issu du cercle parisien, comme tous les archevêques depuis le cardinal Lustiger. Une ouverture progressiste nécessaire, disent certains. Il devra revoir la gouvernance, gérer les travaux de Notre-Dame. Laurent Ulrich a plus de 70 ans, c'est donc un mandat de transition. Il sera atteint par la limite d'âge pour être évêque dans 5 ans.
Et installation de Monseigneur Ulrich le 23 mai en l'église Saint-Sulpice, qui fait office de cathédrale à Paris pendant les travaux à Notre-Dame. La cathédrale est l'église de l'évêque. Déjà patron de Tesla, des lanceurs spatiaux SpaceX, à la tête d'autres projets comme celui de nous implanter des puces dans le cerveau, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'offre Twitter, le réseau social aux 17 millions d'utilisateurs quotidiens. Sa promesse, une liberté d'expression la plus totale possible sur Twitter. L'algorithme qui détermine les tweets qui remontent ou pas, accessible à tout le monde, moins de spam. Voilà donc la promesse d'Elon Musk. Bonjour Benoît Thiolin.
Bonjour.
Ancien président du Conseil national du numérique. Bonne ou mauvaise nouvelle, le Twitter version Elon Musk?
Bah, il y a de la bonne nouvelle et il y a de la très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Twitter, c'est devenu une espèce d'agora numérique mondiale, hein, qu'on utilise beaucoup. En tout cas, beaucoup les journalistes, les politiques, les entrepreneurs, on va dire les citoyens très actifs sont présents de manière mondiale sur Twitter. On aurait du mal aujourd'hui à s'en passer. Et donc, le fait qu'un milliardaire le rachète, le sorte de la bourse, ça peut être, de ce point de vue-là, plutôt une bonne nouvelle.
Le sort de la bourse, ça veut dire, pardon, qu'il sera moins contraint par les régulations publiques ou pas ?
Non, mais en tout cas, il ne sera pas soumis, vu la place médiatique qu'il a prise, il sera évidemment moins soumis aux aléas, tout simplement, des cours de la bourse. Et on sait d'ailleurs que de tous les GAFA, dont il ne fait pas partie d'ailleurs, Twitter, des plateformes américaines, c'est probablement celle qui a eu le plus de mal et qui a toujours beaucoup de mal à trouver un vrai modèle économique. Donc, le fait qu'un milliardaire s'en occupe, comme d'ailleurs beaucoup de médias aujourd'hui qui sont rachetés les uns après les autres par des milliardaires, c'est pas forcément qu'une mauvaise nouvelle. Oui. La deuxième chose sur laquelle on peut éventuellement espérer, c'est que le fait de vouloir jouer un rôle, alors je reste très prudent et sceptique, parce que pour l'instant on n'en sait pas grand chose, mais le fait de dire l'algorithme va être plus ouvert, peut-être avec une démarche un peu plus open source, j'attends de voir ce que ça peut dire, mais ce peut être quelque chose de très innovant et de peut-être une bonne réponse.
Parce que les réseaux sociaux sont traditionnellement hostiles à livrer les clés de la boîte noire, c'est la boîte noire l'algorithme.
Absolument, et pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que si vous et moi on savait comment fonctionnaient les algorithmes, d'une certaine manière les contenus ou les produits qu'on veut vendre, on saurait mieux que quiconque les pousser en avant. Donc c'est assez normal que les algorithmes soient protégés, mais par contre, ce serait tout à fait naturel que les pouvoirs publics aient les moyens de mesurer les effets des algorithmes, les encadrent et les régulent de manière puissante.
Je reviens sur le côté privatisation, puisqu'il rachète Twitter et donc le sort de la bourse. Ça veut dire aussi, parce que quand on est coté en bourse, on doit donner des garanties de transparence. Là, il n'y a plus cette obligation-là, ou en tout cas moins forte.
Oui, alors c'est vrai. Alors cela dit, on peut aussi imaginer que c'est un média, et que comme tous les médias, et comme toutes les plateformes d'ailleurs, et en particulier les plateformes américaines présentes sur le sol européen, elles vont de plus en plus être sous le coup des fourches codines de la régulation. C'est avec Thierry Breton, commissaire européen, a des projets extrêmement importants, qui ont été validés d'ailleurs récemment.
Digital Service Act.
Absolument, qui sont des instruments et des boîtes à outils extrêmement puissantes et innovants, qu'il faut
c'est
saluer
pour 2024,
d'ailleurs. Exactement. Où on va commencer justement à faire de la rétro-ingénierie, à un peu mieux comprendre quels sont les effets des algorithmes pour pouvoir tout simplement fixer des règles d'usage des algorithmes. Et c'est là où la prise de pouvoir par Elon Musk sur Twitter peut être une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que derrière il y a une idéologie. Elon Musk est un personnage absolument fascinant.
Libertarien.
Mais voilà, il est aussi un pur libertarien, il a très contesté le fait que Trump soit sorti de Twitter, alors qu'on était à la limite d'un usage de Twitter qui poussait au coup d'État quand même aux États-Unis. Et ben il a contesté cette décision, et donc là on peut craindre effectivement que on va plutôt rétro-pédaler, alors même qu'aux États-Unis la notion de liberté d'expression, vous savez, qui est très protégé, était très discuté en ce moment même, depuis quelque temps, justement à cause des médias sociaux.
Eh ben, vous me fournissez une transition idéale. Je voulais vous soumettre ces propos de Simon Grivet, qui est professeur d'histoire américaine à l'Université de Lille, histoire politique des États-Unis, justement sur la conception de la liberté d'expression.
Musk est à la fois l'homme le plus riche du monde et un homme qu'on qualifie de libertarien, c'est-à-dire un partisan d'une liberté d'expression maximale, sans beaucoup de régulation. Je pense que tous les points de vue doivent pouvoir s'exercer avec un minimum de régulation. Donc, du point de vue de français ou européen, ça risque de nous surprendre, voire de nous choquer, puisque la définition traditionnelle de la liberté d'expression aux États-Unis, c'est vraiment que tout le monde doit s'exprimer, même les propos racistes, homophobes, sexistes. Tout ça peut être dit. La publication d'ouvrages révisionnistes, négationnistes est possible. La tenue de discours racistes, homophobes, en public, est protégée par le Premier Amendement. Elle n'est pas réprimée par le gouvernement, au nom de ce fameux Premier Amendement à la Constitution. Le débat, il est là aux États-Unis et il se pose pas sur les mêmes bases que ce qui peut se passer en France ou en Europe, où on est habitué à plus de régulation et à un rôle de l'État plus important.
Alors deux choses, Benoît Thuelin. D'abord, déjà la Commission européenne dit qu'il faudra respecter les règles européennes. La conception d'Elon Musk, c'est s'il y a un doute sur un tweet, il faut le laisser, il faut pas l'enlever. Qu'en dites-vous ?
Oui, absolument. Mais moi, je pense que c'est discutable et surtout, ça intervient à un moment donné où même le président Obama, qui pourtant était plutôt libéral, il y a quelques jours, a fait justement des annonces fracassantes en disant il faut réguler pour préserver la démocratie. Les plateformes, parfois dans leur dérive, sont devenues des instruments qui en réalité fragilisent la démocratie au lieu de l'outiller. Comme on l'a vu au début. Et je pense que ça n'est pas un service d'une certaine manière qu'il rend, parce que même aux États-Unis, le concept de liberté d'expression est en train d'évoluer. On déconnecte de plus en plus l'idée de liberté d'expression de ce qu'on appelle donc le freedom of speech, de ce qu'on appelle le freedom of reach. Le problème de Twitter, c'est pas tant que vous puissiez dire ce que vous voulez, c'est le fait que vous puissiez le dire à des millions de gens. Et ça, c'est discutable. Que vous puissiez dire une ânerie dans votre coin, peut-être que c'est tout à fait faisable, mais que vous puissiez le dire à des centaines de millions de personnes, ça demande un encadrement probablement plus strict.
En un mot, Benoît Thuelin, ceux qui auront le dernier mot, parce que Twitter c'est un business, c'est les annonceurs qui diront, qui voudront ou pas se solidariser de messages orduriers possiblement.
C'est vrai, mais on a vu par le passé que malheureusement beaucoup des annonceurs quand même étaient très liés à ces plateformes. Elles n'ont pas beaucoup d'alternatives. Donc je vous dirais, je fais plus confiance à la régulation et à la pression politique en réalité et idéologique sur ce qu'il voudra faire.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Inter, Benoît Thuelin. L'actualité judiciaire, d'un côté Qatar Airways, de l'autre Airbus, procès de géant aujourd'hui devant la Haute Cour de Londres. Le différend entre la compagnie aérienne du Golfe Persique et l'avionneur européen porte, Philippe Lefebvre, sur une question de peinture.
Oui, un problème d'usure prématurée de la peinture sur des Airbus A350 livrés à la compagnie Qatari. Celle-ci estime que cela représenterait un danger pour la sécurité des vols et a donc décidé de clouer au sol 22 avions en réclamant à Airbus un dédommagement de 4 millions de dollars par jour d'immobilisation des appareils. Mais chez Airbus, on s'appuie sur un rapport de l'Agence européenne de sécurité aérienne qui estime que ce problème de peinture ne fait courir aucun risque en matière de sécurité. De surcroît, d'autres compagnies qui possèdent des A350 n'ont à ce jour pas connu de problèmes similaires. Et face à cette situation, Airbus a donc décidé de suspendre les livraisons de tous les avions commandés par Qatar Airways, des A350 et des A321, le temps qu'une solution soit trouvée à ce conflit. Solution qui pourrait être simplement de repeindre les avions, mais qui ne semble pas satisfaire la compagnie de Doha, à qui la pandémie a fait perdre plus de 3,5 milliards de dollars l'année dernière. L'indemnisation réclamée à Airbus pourrait lui permettre de renflouer en partie ses caisses.
Vous l'avez peut-être repéré dans le supermarché près de chez vous, manque d'huile de tournesol dans les rayons. L'État autorise aujourd'hui pour 6 mois maximum les fabricants de margarine, de chips, de sauces, de biscuits et autres plats en sauce à remplacer l'huile de tournesol dans leurs recettes sans changer leur emballage. Tout cela dans une certaine mesure évidemment, remplacé par exemple par de l'huile de colza. Mais si on met des produits allergènes, il faut changer l'emballage évidemment. Elle est née à Alès, Lucille Randoron. C'était en février 1904. À 40 ans, fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue sœur André. Elle vit aujourd'hui à la maison de retraite Sainte-Catherine-Labouré à Toulon. Longue retraite, puisque sœur André a 118 ans et qu'elle est désormais la doyenne de l'humanité. Portrait de la doyenne, Sophie Gletin, France Bleu Provence.
Sœur André avait 10 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Elle a connu 18 présidents de la République et a pris officiellement sa retraite il y a 52 ans. Officiellement, car Sœur André s'est occupée jusqu'à ses 100 ans des autres pensionnaires de la maison de retraite. Car voilà un de ses secrets de longévité, le goût des autres et le don de soi.
Ben oui, chacun a des besoins. Je me suis sacrifié bien des fois et je l'ai fait avec joie et plaisir.
Les plaisirs, justement, la Toulonnaise ne se prive de rien, comme nous le raconte David Tavella, le porte-parole de l'EHPAD Sainte-Catherine-Labouré.
Oui, un petit peu de porto, un verre de vin tous les midis et de l'eau pétillante le soir. Apparemment, ce serait son secret à elle.
Née dans le Gard dans une famille protestante, Lucille Randon, pour l'état civil, est entrée dans les ordres à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, elle pense que Dieu l'a tout simplement oubliée et malgré sa cécité et des journées parfois un peu longues, elle espère qu'il ne l'appellera pas tout de suite, car à 118 ans, Sœur André s'est fixé un nouvel objectif.
Celui de dépasser Jeanne Calment, la titille aussi un petit peu. Hein.
Jeanne Calment qui avait vécu jusqu'à 122 ans, 5 mois et 14 jours. Lui est né en 1902. Le Real Madrid joue ce soir sur la pelouse de Manchester City. Première demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'est à 21h. La météo dans un instant.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
C'est l'époque qui veut ça, on veut tout, tout de suite.
Mais pour faire une bonne viande de bœuf label rouge, pas question de la jouer en accéléré. Les bêtes, il faut leur laisser le temps de brouter l'herbe des prés, au grand air, année après année, dans des fermes familiales. Et pour la viande, bah c'est pareil. 10 jours de maturation lente, minimum. Et là, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Non, non, prof de yoga. Mais je regarde ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf label rouge, le plaisir de manger mieux.
France Inter aime
Hit the Road, un film de Panapanahi. En Iran, une famille est en route vers une destination secrète. Une frontière peut-être. Dans la voiture, un petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et de danser. Seul son grand frère reste silencieux. Hit the Road, un road movie humaniste et poétique de Panapanahi, le 27 avril au cinéma. Un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore quelques averses sur le nord-est, plus d'éclaircies ailleurs.
Oui, de la Bretagne jusqu'au sud-ouest et à la Méditerranée, beaucoup de soleil, du soleil aussi sur le littoral de la Manche avec un vent de nord-est sensible. Sur les autres régions du nord jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus changeant avec des éclaircies mais aussi des nuages, en particulier du bassin parisien jusqu'au nord-est. Sur la Lorraine et sur l'Alsace, quelques averses orageuses encore au menu. Quelques averses aussi pour les Alpes, pour les Pyrénées. Côté thermomètre, ça monte un petit peu. Alors 13 degrés à Cherbourg, 15 à Lille et Colmar, 17 à Paris, 19 degrés à Rennes, à Lyon, 22 pour Bordeaux et Toulouse. On ira jusqu'à 23 à Nîmes et 24 à Bayonne. Et puis demain, une journée très agréable avec des températures parfois fraîches le matin, mais 16 à 24 degrés attendus l'après-midi. Tout ça avec du soleil et plus de nuages tout de même sur le sud-ouest avec quelques averses.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
Et retour aujourd'hui sur l'une des grandes crises qui nous ont affectés collectivement. Le Covid et sa conséquence, les confinements, qu'ont-ils changé dans nos relations sociales ? L'INSEE publie une étude à ce sujet. Que reste-t-il pour vous de ces semaines, ces mois très particuliers ? Sentiment de solitude ou pas ? Les liens avec vos proches ou un peu moins proches ? Se sont-ils renforcés ou distendus ? Avez-vous retrouvé une vie normale ? Appelez-nous 01 45 24 7000 ou intervenez via l'appli France Inter, rubrique Réagir. J'ai déjà cette réaction d'Aglaé. La pandémie a changé mon rapport aux autres en mieux. En tant que jeune femme, j'ai enfin la possibilité de refuser les embrassades et autres bises sans trop froisser les autres. Deux invités pour dialoguer avec vous jusqu'à 13h45. Bonjour Valérie Alboui.
Bonjour.
Directrice du département des ressources et des conditions de vie des ménages à l'INSEE. Et bonjour Michel Grossetti.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS et vous faites partie du projet VICO qui suit via un très large questionnaire les effets sociaux de ces périodes de confinement. La dernière vague de questions a été organisée en décembre-janvier dernier. Valérie Alboui, que retenez-vous de cette dernière étude de l'INSEE sur les effets des confinements ?
Alors, je retiens deux choses. Je retiens à quel point ça a été dur pour certaines personnes, parce qu'on a quand même une personne sur 10 qui déclare avoir éprouvé de manière récurrente ou permanente un sentiment d'abandon ou s'être senti perdu, ce que je trouve être des termes assez forts. Mmh. Et puis la deuxième chose que je retiens, c'est l'importance des liens familiaux, parce que les gens se sont débrouillés dans un contexte où ils avaient des difficultés pour se voir. Ils ont basculé sur d'autres modes de communication et ils ont maintenu les liens familiaux par ces moyens.
Les liens familiaux directs et très proches maintenus, les liens avec l'entourage un peu plus loin se sont un peu distendus, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. On voit que pour la famille, les gens ont davantage décroché leur téléphone, envoyé des mails, enfin voilà, basculé sur des modes de communication distants et ont par ce biais maintenu des liens très rapprochés, hein, parce qu'on a quand même 34% de la population qui a maintenu des liens quotidiens avec, ouais, sa famille. On ne le voit pas pour l'entourage hors famille. Là, on ne voit pas d'augmentation très très nette de ces liens.
Et Michel Grossetti, quelles traces restent-ils de ces mois de confinement aujourd'hui encore ?
Oui, alors dans l'étude dont vous avez parlé, nous avons essayé d'avoir des informations sur les relations perdues, nouvelles ou dégradées durant le confinement de 2020 et puis par la suite. Et on s'est rendu compte en effet que, comme l'a dit votre interlocutrice, les gens se sont repliés beaucoup sur leurs liens forts, la famille proche, les amis intimes. Mmh. Et par contre, on fait un peu le tri des autres relations. Et donc, et les vagues successives de notre enquête montrent qu'il y a des effets à moyen terme, en tout cas, de cet impact du premier confinement et de la crise qui a suivi ensuite.
Allez-y.
Oui. Non, et puis en fin de période, donc dans la dernière vague de notre étude, on voit quand même une sorte de retour à une situation ordinaire qui commence à s'amorcer.
Lauriane au standard avec nous. Bonjour Lauriane.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Écoutez, ça me faisait sourire d'entendre Aglaé qui disait qu'elle avait l'autorisation, entre guillemets, de ne plus faire la bise. Ouais. Oui, ça c'est vrai que c'est une victoire. Moi, malheureusement, j'ai toujours été un peu obsédée par l'hygiène des autres et cette crise n'a vraiment rien arrangé. C'est-à-dire que, pour moi, les confinements, c'était une grande récréation. Bon, ça, c'est, il n'y a pas beaucoup de gens qui
l'ont vécu comme ça, oui.
Voilà, ouais. Ça a été mon cas. Et maintenant, j'ai peur de ne pas retrouver des relations normalisées ou harmonieuses avec les autres parce que je ne pense qu'à ça, je suis un peu effarée de constater qu'on a attendu 2020-2021 pour réaliser que se laver les mains en rentrant chez soi, c'était important. Enfin, bon, je sais pas trop comment retrouver des relations un petit peu plus normales, parce que pour moi, c'est toujours risqué. Les masques dans les transports, je ne sais pas comment on a fait sans. Je me dis que c'est beaucoup mieux comme ça, donc voilà, c'est compliqué.
Est-ce que je peux vous poser deux questions, pardon, personnelles? Un, votre âge, et est-ce que vous vivez seule?
Non, je vis avec mon chéri, oui. Et ça rend les choses très agréables. Oui. Et mon âge, j'ai 46 ans.
Très bien, merci, parce que quand on lit les études de nos invités, c'est des facteurs importants. Valérie Albouy, différence homme-femme dans la façon de vivre ces confinements.
Oui, alors c'est un des critères les plus importants, effectivement. Dans les, on voit assez peu de différences quelque part selon l'âge, mais il y a pas mal de différences hommes-femmes. Surtout, effectivement, ce sont surtout les femmes qui ont augmenté les communications à distance, oui, avec la famille, qu'ont porté ça et qu'ont maintenu le lien. Et les femmes ont été aussi beaucoup plus nombreuses à éprouver ce sentiment d'abandon dont je parlais au départ. Et alors je voudrais dire à votre auditrice qu'elle a dit, moi je suis très atypique parce que j'ai vécu les confinements enfin comme une récréation. On avait posé cette question, oui, dans des l'INSEE a posé ces questions, cette question dans des enquêtes de l'INSEE. Et ben c'est pas si atypique que ça, parce qu'on avait vu qu'effectivement il y avait 30% des personnes qui, quand on leur demandait de noter la pénibilité des confinements, ben il y en avait 30% qui donnaient, on demandait de noter entre 0 et 10, qui donnaient une note en dessous de 3, donc enfin, ce que j'interprète comme non, franchement c'était pas du tout
un drame.
Ouais. Et à l'inverse, il y en avait, enfin voilà, on voyait déjà qu'il y avait des gens qui avaient trouvé ça très pénible, donc elle est pas si isolée que ça.
Michel Grossetti, je me permettais de demander à Lauriane si elle vivait seule. C'est un facteur important, me semble-t-il, sachant que vivre seul ne veut pas forcément dire isolement social. Et c'est l'isolement social qui fait qu'on vit plus ou moins bien les périodes de confinement.
Absolument, oui. Les personnes qui ont le plus souffert peut-être pendant le premier confinement, qui était très radical, ce sont les personnes qui résidaient seules et dont la sociabilité s'effectuait en dehors de leur domicile, en fait. Et donc, en particulier, des personnes un peu âgées, des femmes un peu âgées, ont pu se retrouver vraiment dans une situation de solitude, avec un sentiment, un effet de se retrouver isolées et en difficulté, quoi.
Le niveau de revenu, en gros, plus on est riche, mieux on a vécu ces deux années, plus on est pauvre, plus c'était compliqué. Est-ce que c'est un critère discriminant ?
Oui, certainement, il valait mieux avoir un grand appartement ou un logement spacieux et des moyens de subsistance importants. Mais après, juste pour revenir sur la question de l'âge, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit
Valérie
notre collègue de l'INSEE, oui, voilà, sur la différence entre les hommes et les femmes et l'implication des femmes dans le maintien des relations familiales et des relations sociales en général. En revanche, quand on observe l'évolution des relations, ce sont quand même les jeunes qui ont le plus perdu de relations, eu des difficultés à maintenir des liens amicaux pendant la période du confinement. Ce sont des âges où on a beaucoup de relations dans des activités de sociabilité qui sont à l'extérieur du domicile, et donc là, le confinement était particulièrement difficile.
Parmi les points positifs de l'étude de l'INSEE, Valérie Albouy, la solidarité familiale en particulier a joué à plein.
Oui, effectivement. Alors déjà, il y a 3 personnes sur 10 qui reconnaissent avoir, qui disent avoir eu un moment besoin d'aide.
Y compris matérielle ou financière.
Oui, alors c'était soit du soutien moral, assez souvent, hein, c'était du soutien moral, mais aussi besoin d'aide matérielle ou financière. Il y en a une proportion non négligeable qui a demandé cette aide à ses proches, à peu près les 3/4, et quasiment tous l'ont obtenue. Et quasiment tous ont obtenu cette aide de la part de leurs proches. Donc c'est le côté positif de l'enquête. Et au moment de l'enquête de l'INSEE, on a interrogé les ménages à l'automne 2021. Il y en a, donc après les confinements, il y en a 92% qui du coup pensent pouvoir compter sur quelqu'un. Donc on a l'impression qu'il reste quelque chose de cette solidarité qui s'est exprimée pendant les confinements.
Frédéric au standard. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Donc on voulait savoir ce que le Covid avait changé dans notre façon de, disons, d'avoir des rapports sociaux. Oui. Eh bien, dans la mesure où le contexte était dramatique, émotionnel, avec des positions très tranchées, ben moi c'est clair, je me suis fâché avec la moitié de ma famille et la moitié de mes amis. Voilà. Alors maintenant, on parle rugby, on parle pinard, on parle bagnole, vacances, mais on parle
ni Covid ni politique. Et il me semble, Michel Grossetti, que c'est quelque chose que vous avez repéré à travers le questionnaire du projet Vico, des fâcheries plus fréquentes.
Oui, alors surtout dans la troisième vague, on a posé des questions sur les conflits autour de la question des vaccins. Oui. Et là, effectivement, les personnes ont pu se retrouver en conflit avec, y compris leur propre famille, leurs frères, leurs sœurs ou autres. Et donc, ça a dégradé certaines relations sociales. Il y a même des couples qui se sont séparés sur ces affaires-là. Heureusement, pas en très grand nombre, mais on en a quand même dans nos enquêtés qui témoignent comme ça.
On parlait des jeunes il y a un instant avec vous, Michel Grossetti. Le Monde fait état de l'alerte que sonnent les spécialistes de la santé psychologique, psychiatrique. Les passages aux urgences pour des gestes, pour des idées suicidaires, pour des troubles de l'humeur se maintiennent à des niveaux élevés, à des niveaux comparables à ce qui était observé au début de l'année dernière, donc en plein milieu de la pandémie. Les traces durables de ces moments très particuliers, c'est chez les jeunes qu'on les trouvera.
Entre autres, oui, pour eux, ça a été très difficile parce que le confinement, le premier confinement les a coupés un petit peu de leurs amis, même s'ils ont beaucoup utilisé les moyens numériques, évidemment, pour rester en contact. Oui. Beaucoup sont rentrés chez les parents, on oublie de le dire, ça c'est une situation un peu particulière. Oui. Et après le premier confinement, les cours ont repris, mais souvent en distanciel pour les étudiants. Et donc, ils n'ont pas eu la possibilité de retrouver leur sociabilité entre jeunes aussi facilement qu'auparavant. Il n'y a que dans la période la plus récente qu'on retrouve à peu près des conditions de sociabilité ordinaires, disons. Est-ce que il y a plus de traces pour les jeunes.
Il y a plus de traces pour les jeunes. Est-ce que dans l'étude de l'INSEE, Valérie Albouy, on repère un mal-être durable chez une partie de la population?
Alors, quand je disais tout à l'heure qu'il y a assez peu d'écart selon l'âge, effectivement, j'étais un peu imprécis, c'est-à-dire que on observe les sentiments là très très négatifs que je décrivais au départ, à la fois sur des personnes assez âgées et puis chez des personnes plus jeunes. Par contre, l'étude de l'INSEE ne permet pas de faire un focus sur les 18-24 ans, enfin vraiment les plus jeunes. Donc j'ai pas d'éléments là-dessus.
Les familles monoparentales?
Par contre, les familles monoparentales, effectivement, on observe, et c'est comme les personnes seules, ça a été plus dur, enfin, ça a été dur pour elles. Elles sont plus nombreuses à déclarer avoir mal vécu ces confinements.
Michel Grossetti, les relations à distance, je me souviens qu'au plus fort du confinement, on parlait de ces gens qui établissaient des nouvelles relations à distance sur les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, etc. Est-ce que ça a duré? Est-ce que ça a donné quelque chose de durable ou ça s'est évanoui avec le confinement?
Oui, alors nous l'avons étudié de près. Nos collègues, c'est Julien Figeac, qui a publié plusieurs articles là-dessus. Et oui, le confinement a amené les gens à faire l'apprentissage très vite, pour ceux qui n'avaient pas déjà l'usage des moyens de communication à distance. Donc on a vu des personnes âgées se mettre assez vite à la visioconférence, aux groupes de discussion en ligne, etc., etc. Et ça, au fond, c'est un apprentissage qui est resté, quoi.
À propos des jeunes, ce qui a disparu et peut-être d'autres catégories de la population à ce moment-là, et je ne sais pas si ça s'est revenu, sont ce qu'on appelle les petites interactions, c'est-à-dire des relations sociales peut-être moins importantes, moins fondamentales, mais qui constituent la vie quotidienne. Ça avait disparu avant le confinement, c'est revenu.
Ça avait disparu pendant le confinement, vous voulez
oui,
dire.
Oui, absolument. Oui.
Oui, c'est revenu avec un retour progressif à des formes d'interaction ordinaires, en quelque sorte, puisque nous sommes toujours dans cette crise sanitaire avec des masques, avec des gestes oui. barrières. Je suis bien placé pour vous en parler, puisque j'ai le Covid, là, en ce moment. C'est pour ça que ma voix est un peu...
Bon, vous avez l'air de pas trop mal vous porter malgré
non,
tout.
Ça va. Merci.
Et d'ailleurs, les Covid longs, est-ce que les gens qui ont souffert de Covid long, au plan social, ça se traduit d'une manière ou d'une autre, ça aussi?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre parce que nous n'avons pas de données là-dessus.
Bon, Monique nous appelle de Savoie. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, je voulais simplement dire que moi, j'ai 74 ans, je vis seule dans une maison qui est en plus un peu à l'écart du village, puisque je suis dans un petit village au bout du lac de Bourget. Et j'étais pas mal engagée auprès de la bibliothèque où je m'occupais essentiellement des enfants. Je faisais aussi du sport, je faisais aussi de la couture avec un groupe. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans aucune activité et avec même plus le droit de sortir. Donc là, vraiment, ça s'est pas bien passé dans ma tête. Et là, maintenant, depuis, j'ai la sensation d'avoir perdu beaucoup de neurones. J'en ai beaucoup qui fonctionnent plus et j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à revenir une vie normale. J'essaie de faire des exercices de mémoire, mais ça marche pas.
Et est-ce que l'activité associative, vous l'avez reprise?
Non, terminé.
Michel Grossetti, dans l'étude Vico, à propos des personnes à la retraite, effectivement, au-delà du confinement proprement dit, il y a cette perte d'activité associative, notamment.
Absolument, votre interlocutrice a tout à fait raison et très représentative de ce que nous avons vu. La coupure des activités associatives en premier confinement et leur difficile réapparition par la suite a été vraiment une difficulté pour les personnes qui étaient très engagées dans ces activités. Et donc, son cas est assez fréquent et c'est un des problèmes qu'il faut traiter maintenant. Quoi.
Merci à tous les deux, Valérie Albouy, Michel Grossetti, d'avoir répondu à nos questions. Merci aux auditeurs qui nous ont appelés. L'étude de l'INSEE, on la trouve sur le site de l'INSEE.
Il faut aller la voir, elle est très bien.
Elle est très détaillée. Merci beaucoup, 13h46.
France Inter. Le 13-14.
Et à suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
En ces temps de tension avec la Russie, il est toujours utile de se référer au marquis de Custine.
Oui, la Russie en 1839. Allez voir, c'est très bien.
À tout à l'heure. Les Dark Kitchen, les cuisines fantômes. C'est le feuilleton de la semaine signé Sarah Guibaudot. C'est dans 5 minutes, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, un roi du disco, Céron, batteur, producteur de musique. Il a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde, raflé des dizaines de prix avec ses tubes, notamment Supernature.
Supernature. Oui, voilà, Céron, le seul artiste français aussi signé sur le label Atlantic Records dans les années 70, aux côtés d'Aretha Franklin, Ray Charles ou encore les Jackson 5. Il a notamment produit Latoya, la sœur aînée de Michael Jackson à Los Angeles, et c'est à cette occasion qu'il a eu le privilège de découvrir en avant-première le titre Bad, sorti en 1987.
J'ai produit Latoya et Michael voulait, il aimait bien que le matin on vienne pour lui faire écouter ce qu'on avait fait la veille et autres, et ci et ça.
Ouais.
Et puis il y avait des retouches qu'il m'avait suggéré, qui étaient très bien d'ailleurs, qu'il fallait absolument faire. Et je lui ai dit, écoute, je vais essayer de trouver le studio. Il me dit, mais sinon pourquoi tu fais pas ça ici ce soir? Donc on est revenu le soir dans son studio. Et on a enregistré cette chanson qui s'appelait Oops, Oh No, avec la Latoya Jackson. Et en parlant comme ça, de manière très sympathique, il était en train d'enregistrer Bad.
Oui.
Et je lui dis, qu'est-ce que j'adorais écouter. Il me dit, mais tout simplement, tu veux vraiment l'écouter? Je lui dis, attends, je dirais pas que je suis venu exprès, mais presque. Et il m'a fait écouter Bad, qui était pour lui pas fini.
Ouais, c'était une première piste.
Oh, c'était plus que pré-prod même. Et c'était fabuleux, quoi. Je suis sorti de là, j'étais dans une bulle.
Est-ce que ça a affecté votre propre façon de créer musicalement?
Non, mais quand on écoute des titres comme ça qui restent populaires, parce que souvent quand on va dans la technique, ça enlève le côté très popu. Mais à leur niveau, entre Michael et Quincy, ça oblige, quand on écoute ça, de se surpasser, quoi. Je veux dire, la barre, elle est tellement haute que d'un seul coup, le lendemain, au studio, on va dans les détails qu'on aurait pu laisser passer autrement. Mais des gens comme ça, oui, ça vous pousse, quoi, ça vous attire vers le haut, c'est fantastique. Your word is mine, don't
Quelqu'un qui parle de Michael et Quincy, déjà ça vous pose son nom. Cérone raconte donc la chanson Bad, qui est aussi un album, Bad, troisième et dernier, coproduit entre Michael Jackson et Quincy Jones.
Absolument, et Cérone qui a inspiré d'innombrables artistes qui l'ont samplé, comme les Daft Punk et Bob Sinclair, nous explique pourquoi on ne touche pas à Bad.
N'importe quelle chanson de Jackson, j'aurais été incroyablement fier de moi de la composer, bien sûr.
Et retravailler Bad ?
Non, jamais. Ça,
pourquoi ?
Parce qu'on m'avait demandé aussi, Universal m'avait demandé il y a quoi une vingtaine d'années si je voulais pas faire un remix de Bee Gees, de Saturday Night Fever. J'ai dit non, ce genre de choses, on n'y touche pas. Alors on me dit, mais toi, on retouche bien. Comme on dit, c'est les autres qui font. Mais moi, je ne touche pas quelque chose qui, pour moi, a atteint la perfection. On ne peut faire que moins bien.
Musicalement, est-ce que Bad est un morceau compliqué ? Est-ce que c'est une prouesse artistique ou
non,
c'est,
non, Bad n'a rien de particulier par rapport au catalogue de Michael. Michael, ce qui était incroyablement stupéfiant quand on écoutait un nouveau titre, c'est d'abord comment il interprète. D'abord le chanteur. Comment l'émotion, il arrive à le faire passer. Et ensuite, pour un producteur que j'essaye d'être depuis longtemps, la perfection, quoi, je veux dire, ça va au détail. Et prenant Quincy Jones, qui est là, la perfection de la perfection.
Le master.
Ben, on peut pas lutter, quoi, je veux dire, c'est, ça va au-delà d'un titre, tout est à la perfection.
Et Cérone fête ses 50 ans de carrière cette année, Aline. À cette occasion, il se produira au Brixton Disco Festival de Londres le 30 avril prochain.
Et le dernier EP de Cérone, en collaboration avec le producteur français The Reflex, qui a retravaillé deux de ses tubes emblématiques, vient juste de sortir.
Et le 30 avril, c'est ce samedi. Merci.
Absolument.
Aline Afanouko, et à demain.
À demain.
Parlons à présent de ces nouveaux locaux dans nos grandes villes. Who's Bad, dit Aline. De nouveaux métiers aussi. Vous le savez, depuis le confinement en particulier, les livraisons de repas à domicile se sont développées. Où s'approvisionnent les livreurs à scooter ou vélo? Ils vont dans des dark kitchens, cuisines dites fantômes parce qu'elles ne sont pas très visibles, même si elles se multiplient. Alors qui travaille et comment dans ces cuisines? C'est notre feuilleton de la semaine. Conditions pas toujours idéales, ceux qui ouvrent leurs portes respectent les normes. Sarah Guibaudeau est allée à Lyon chez Food Lab. Épisode 1, présentation.
Donc là, c'est le balai de livraison de fournisseurs de denrées et de boissons qui viennent approvisionner les différentes cuisines du Food Lab. Je suis Raphaël Roch, je suis cofondateur de Food Lab avec deux autres personnes, Bastien Coinon et Mathieu Lemaître. Trois amis à la base, on a fait une école hôtelière ensemble, on s'est rencontrés il y a quasiment 15 ans. Et on a cofondé tous les trois Food Lab il y a maintenant un peu plus de 2 ans.
On va visiter ?
Ouais, avec plaisir. Alors dans ce bâtiment-là, il y a 17 cuisines.
Vous avez aussi bien des sushis que des tacos, des hamburgers.
Tout ce qui est possible d'imaginer, on l'a à peu près dans nos murs.
Donc chaque restaurateur loue sa cuisine.
Ouais, exactement, il loue la cuisine. Donc l'intérêt du Food Lab, pour synthétiser, c'est que vous pouvez commencer très vite, parce que c'est déjà quasi prêt à l'emploi. Sur une courte durée d'engagement, c'est des contrats d'un an. Et enfin, sur un très faible investissement, puisqu'on a un droit d'entrée qui est de 5000 euros. Là où quand vous achetez un fonds de commerce aux normes, parce que j'y tiens, vous pouvez trouver des trucs pas chers du tout, mais pas du tout aux normes. Mais si vous voulez faire les choses bien, un fonds de commerce aux normes, ça vaut de l'argent. Et chez Food Lab, vous pouvez commencer très vite pour pas grand-chose.
Est-ce qu'il faut préciser que vous êtes soumis aux mêmes normes d'hygiène et de sécurité qu'un restaurant physique ?
Exactement. Monsieur, bonjour.
Alors voici l'une des cuisines. Donc on a dit une trentaine de mètres carrés.
Vous avez une hotte qui fait un peu plus de 3 mètres, sous laquelle se trouvent tous les éléments de cuisson, des frigos. Voilà, ce bruit veut dire, vous avez une commande, il faut l'accepter et la préparer, et un livreur ou un client viendra la récupérer.
Je m'appelle David, j'ai fait une formation à l'Institut Paul Bocuse avant d'ouvrir ma Dark Kitchen. où du coup on a appris toutes les bases de la cuisine française, de la gastronomie française. Et après, ben, l'idée c'était de les mélanger avec des recettes asiatiques. L'avantage d'ouvrir en dark kitchen, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent, surtout qu'on n'en a pas beaucoup. Et ça nous permet encore de continuer à se faire connaître, de peaufiner nos recettes, notre expérience, avant de trouver un vrai local.
Donc à terme, votre objectif, ça reste d'ouvrir un vrai restaurant physique.
C'est ça.
Voilà, les commandes pleuvent.
En vrai, non. La tablette, elle a sonné, c'est pour signaler que le livreur est en route.
Bonjour, 42,40, s'il vous
plaît. On est en train de te l'emballer, ça arrive.
Excusez-moi, je fais un reportage sur le Food Lab. Vous venez souvent livrer ici?
Depuis que ça a ouvert, oui. Je travaille avec les deux plateformes, Deliveroo et Uber.
Et vous arrivez à en vivre correctement?
Très bien même. Quand on livre en scooter, bon, en vélo c'est sûr que c'est plus dur, mais en scooter c'est beaucoup plus rentable, quoi. Surtout à Lyon.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Un beau jour, à un carrefour parisien, j'ai vu un nombre de livreurs. Et je me suis dit, mais ça devient un phénomène vraiment important. Et ça m'a amené à me poser sur le sujet et du coup à voir ce qui se faisait et à me rendre compte que déjà dans les pays anglo-saxons, c'était quelque chose qui existait. Ça m'a donné l'idée de monter mon restaurant en ligne. J'ai décidé d'aller à Lyon pour des raisons personnelles. Et en cherchant des locaux, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que les seules choses qu'on me proposait, c'était des restaurants traditionnels qui avaient souvent des grandes salles et des petites cuisines et d'autre part très chers. Et en fait, tous les agents immobiliers avec lesquels j'étais en contact me disaient « Mais monsieur Rock, on a de plus en plus de demandes comme la vôtre. » Et bah à ce moment-là, j'en ai parlé avec Bastien et Mathieu et on s'est dit « Est-ce que ce serait pas un marché qui demande qu'à exister » C'est-à-dire, s'il y a de la demande et qu'il n'y a pas d'offre, et ben, on va la créer.
Une semaine dans la vie des Dark Kitchen, feuilleton de Sarah Guibaudot, réalisation Théo Raison et Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, à chaque période de tension en Europe avec la Russie, revient un livre, Les Lettres de Russie, de Custine, grand voyageur, lettre rédigée à l'occasion d'un séjour en 1839, et les éditions classiques Garnier en relancent aujourd'hui la circulation.
L'aubergiste à la frontière avait fait remarquer à Custine qu'un pays que ses habitants quittaient avec tant de joie et se retrouvaient et ne retrouvaient qu'avec tant de crainte, ça pouvait pas être un bon pays. C'est encore la leçon un peu simple qui est souvent retenue de cette Russie en 1839 qui serait toujours la même en 2022. Alors le marquis de Custine a entrepris ce périple ingrat parce que il s'appelle de son prénom Astolphe. Ça pourrait
aller. C'est joli Astolphe.
Se sampler, non? Parce que il craint pas les expéditions périlleuses. Il en a commis dans les Alpes dans sa jeunesse. Il a rapporté aussi des livres de ses voyages en Calabre, en Écosse, en Espagne. C'était pas à l'époque des destinations de tout confort au début du 19e. On peut même soupçonner Astolphe d'une aspiration au danger. Il lui était arrivé, après avoir donné un rendez-vous amoureux à un soldat dans sa caserne de Saint-Denis, de se retrouver battu, laissé nu dans la boue, et le scandale. Sainte-Beuve, l'éminent critique, l'avait décrit « un homme qui jouit à bon droit d'une très mauvaise réputation de mœurs ». Le goût de l'ailleurs, d'Astolphe, s'explique aussi par la volonté de se tenir loin des commérages de salon. Mais n'allez pas imaginer que voyager pour lui, c'était un jeu de cache-cache. Dans la réalité, il avait une ambition intellectuelle. Il avait lu de l'Allemagne, Madame de Staël, La démocratie en Amérique, Tocqueville. Lui n'était ni libéral, ni démocrate. Sa famille avait été victime de la terreur. Mais il se demandait si à l'Est ne se levait pas un régime d'ordre qu'il était intéressant d'examiner, voire de proposer en modèle.
Bon, en fait, de régime d'ordre, il a trouvé une tyrannie.
Oui, dès le prime abord, passage de la frontière, aéropage de commis des douanes qui vous menacent de fouilles serrées et de confiscations arbitraires, puis les représentants de la chancellerie impériale qui examinent vos papiers et dont les collègues vous suivront de très près. Alors pour déjouer la surveillance, Astolphe enverra des courriers anodins à ses correspondants, cachant ses notes plus personnelles dans la doublure de son chapeau. Le système qu'il décrit est fait de façades dissimulatrices, mais son livre est construit de la même façon avec beaucoup de fausses pistes, de noms factices, afin d'éviter à ses interlocuteurs d'être poursuivis par la vindicte du tsar.
Il était parti sans préjugés défavorables, il revient de Russie convaincu que ce pays c'est un danger.
Alors regardez ce qu'il dit des mougis qui sont habitués à piller les Chines par l'église orthodoxe, et habité par une cruauté méthodique, il forme un peuple inapte à se gouverner lui-même et qui, en conséquence, pour expier sa servilité, va chercher la conquête du monde. Sa rencontre avec le tsar a glacé Astolphe. Nicolas Ier, devant lui, a joué avec tous ses masques, politesse surjouée, solennité, sévérité effrayante, jamais un moment de naturel. On a reproché à Custine d'avoir mal vu. Il répondait « Ben, j'ai bien deviné. Et du pouvoir russe, il disait ceci, il refait les faits. Chateaubriand, que Astolphe avait connu jeune, parce que il était l'amant de sa mère, Chateaubriand recommandait l'alliance franco-russe. « Non, c'est une chimère, » répond Custine, « c'est entre la France et l'Allemagne qu'il faut cultiver les rapports. » Et il insistait sur l'importance stratégique de la Turquie. On la retrouve aujourd'hui, où ni l'OTAN ni Poutine ne peuvent se passer d'Erdogan.
La publication du livre à l'époque et depuis ses rééditions au XXe siècle font allumer à chaque fois des contre-feux.
Alors, triomphe avec une vingtaine d'éditions jusqu'en 1855, et contre-attaque du tsar qui est furieux contre Astolphe. Un de ses séides, n'hésitant évidemment pas à s'attaquer à ses mœurs, suggère « bah il voit les hommes du mauvais côté ». La Russie, en 1839, reviendra au premier plan avec la guerre froide, et les partisans de la détente avec Moscou, comme ceux qui se méfient toujours de Berlin, ne manqueront pas de s'offusquer de ce retour. Lisez ce que Jean-Pierre Chevènement écrit de Custine. Mais écoutez ceci. Lorsque notre démocratie portera ses derniers fruits, lorsque les nations soi-disant civilisées auront achevé de s'énerver dans leur débauche politique, quand de chute en chute elles seront tombées dans le sommeil, un jour le géant de l'Est se lèvera et sa violence mettra fin au règne de la parole.
La Russie en 1839, le Marquis de Custine, l'édition critique est disponible aux éditions classiques Garnier. Merci Jean Lebrun. Dans un instant, la Terre au carré avec Astolphe Vidard. D'abord, un peu de réclame.